C'est 12 degrés sur Québec. Le matin. 9h07, vous avez des choses à vous dire. C'est le 88-971-1021. 88-971-1021. Tu vois, tantôt, c'était plein soleil. Puis regarde à quelle là, vitesse les nuages sont arrivés.
Ah oui, puis éloigné.
Les météorologistes.
C'est très noir.
Les météorologistes ne se trompent jamais. Ah. Jamais.
Moi qui pensais avoir une belle brise ensoleillée pour le débat de Lévis en studio.
C'est vrai? Ouais, te faire bronzer un peu sur le site.
Me faire bronzer un peu sur le site, ouais. Certain.
T'as pas un bon job pour te faire bronzer un peu sur le site parce que tu commences quoi, à 2h30, 3h du matin?
Ouais, c'est ça l'affaire. Je me lève à 3h45.
Soleil.
Avant, je pouvais, quand ça finissait à 10h, je pouvais dire, bon, je vais me faire bronzer un peu, mais là, je suis en studio jusqu'à 2 avec la nouvelle émission.
À moins d'être dans le Grand Nord, là, 2h30 du matin, c'est rare que le soleil est dans le secteur.
Ah, non, il est pas dans le secteur. Tu sais, c'est quoi maintenant mon Yannick?
Oui, c'est ça. J'apprends à vivre comme les vampires. Marc-Antoine Reed, planificateur financier pour gestion de patrimoine, pour IG Gestion de patrimoine, est en studio avec nous autres. Salut Marc-Antoine.
Hey, bonjour.
T'es-tu revenu pour de bon là, de ton périple?
Je redescends de mon nuage tranquillement, pas vite.
T'es-tu tanné de raconter ton histoire? Parce que là, tout le monde sont au courant de votre histoire. Elle est montée le Kilimanjaro. Ouais. J'écoutais Pascal parler en fin de semaine avec les auditeurs au Roger Or, puis tout le monde voulait prendre de ses nouvelles. Ah ouais. C'est parce qu'à un moment donné, tu la racontes souvent, ton histoire.
Je
la répète.
Pas ça, je la raconte aussi souvent que Pascal. Là, les clients s'informent.
T'as moins
quand
d'amis
même,
que Pascal.
Je sais pas.
Elle est plus sociable que toi.
Peut-être.
Donc là, t'es revenu. Fait qu'un horaire régulier du 8 à 5.
C'est ça, exact. Ben, plus que 8 à 5, là, parce que comme je disais tout à l'heure, je dis toujours, les vacances dans un milieu où est-ce qu'on est travailleur autonome, que les clients comptent sur nous, c'est plus la possibilité de tasser du travail avant puis après que vraiment prendre une pause pendant deux semaines. Ça fait que là, on est un petit peu encore en mode rattrapage, mais ça se passe bien.
Cool! Aujourd'hui, dans ta chronique financière, on parle du CELIAP.
Ben oui, exact. Un produit qui façonne maintenant l'univers financier pour ceux qui sont un petit peu plus âgés et on s'en est moins servi, mais ça façonne quand même et ça peut s'appliquer à vos enfants. Ça fait que c'est important de bien le maîtriser. Puis pour, je vous propose, pour faire une petite introduction à ça, je vais faire un bref, puis je vais le faire quelques fois dans la saison, parce que c'est mon début de la période REER, mais je vais faire un bref survol des caractéristiques ou une mise à niveau des caractéristiques du REER et du CELI, parce que le CELIAP, c'est un peu le meilleur des deux mondes pour aider un premier acheteur à financer son achat. Ça fait que je commence. Dans le fond, il y a trois grandes caractéristiques pour bien dissocier le REER et le CELI. En gros, est-ce que c'est déductible? Est-ce que les rendements qu'on fait dedans, il y a de l'impôt dedans? Puis quand on va sortir l'argent, est-ce qu'il va avoir de l'impôt en sortant? Fait que le REER, on a une déduction fiscale quand on met des nouvelles sommes. Je mets des chiffres ronds toujours pour l'explication. On gagne 100 000, on met 10 000 $ de REER. Quand on va faire nos comptes avec l'impôt, ben on va payer de l'impôt comme si on avait gagné 90 000.
Parfait.
Les rendements, peu importe la façon qu'on place ça, de façon conservatrice et garantie ou de façon plus agressive, que ce soit du gain capital, du dividende, du revenu d'intérêt, il n'y a pas d'imposition sur les rendements.
Tant que tu ne retires pas.
Donc, dedans, là, la cagnotte, elle augmente. On n'a pas besoin de déclarer qu'est-ce qu'on a fait comme revenu, comme rendement pour payer de l'impôt là-dessus. Il n'y a pas d'impôt là-dessus. C'est défiscalisé. Et au moment du retrait, il y a des programmes spécifiques qui permettent de retirer avant. J'en parle un peu la semaine prochaine quand on va parler de l'achat d'une première maison. Mais au moment du retrait, règle générale à la retraite, il y aura de l'impôt. Fait que ça, c'est les caractéristiques du REER. Quand on le comprend bien, c'est un mécanisme qui diffère l'impôt. Déduction maintenant, on s'achète une facture plus tard.
Exact. Parce que nécessairement, plus tard, on va avoir moins de revenus.
Pour la plupart des gens.
Je pense que ça va être avantageux pour nous, pour la plupart des gens. Je pense que ça va être. C'est notre génération à toi et moi, Jeff. On va avoir moins de revenus à 65 ans. Mais c'est ça. Ce qui fait en sorte que tu vas pouvoir sortir du REER sans nécessairement changer de braquette.
C'est ça. Puis on retient cette phrase-là parce que c'est très important pour la plupart des gens. Je vais juste poser une petite question pour bien me démystifier la différence entre REER et CELI. Puis lequel est plus intéressant. Le CELI, nouvelle déduction, nouvelle cotisation, il n'y a pas de déduction. Fait qu'en gros, là, si tu gagnes 100 000, tu mets 10 000 en CELI, tu payes ton impôt sur ton plein 100 000.
OK.
Qu'est-ce qui est similaire? Il n'y a pas d'imposition sur les rendements qu'on fait dedans.
Parfait.
Qu'est-ce qui est une autre chose qui est différente? Quand on va retirer les sommes, il n'y aura pas, ça ne s'ajoutera pas à nos revenus, il n'y aura pas d'impôt à payer. Donc, pas de déduction, mais pas d'impôt à la sortie.
OK. Même s'il y a eu de l'intérêt.
Même s'il y a eu de l'intérêt, rien.
Ça, c'est fantastique.
Exact, mais c'est super aussi. Donc, chacun a ses utilités pour différents types d'objectifs. Maintenant, je pose souvent la question pour améliorer la compréhension, lequel des deux est le meilleur pour la retraite entre le CELI et le REER?
Ben, je dirais ça dépend d'eux.
C'est tôt, presque toujours ça dépend. Tu le sais pas, dans mon milieu, tu dis ça dépend.
C'est écœurant, ça, c'est la réponse parfaite.
J'ai trop de chums planificateurs financiers. Ouais, moi, c'est Marc-Antoine qui m'a tout appris ça. Jeff, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend, Marc-Antoine, explique-moi la situation.
Donc, ça dépend de quoi? Tu l'as nommé tantôt. Ça dépend du taux de déduction qu'on a maintenant versus le taux d'imposition qu'on va avoir plus tard à la sortir. Si on avait la discipline, ce qui est quand même difficile, de jamais toucher au CELI pour autre chose que la retraite, si on avait le même taux de déduction que le taux d'imposition à la sortie, mathématiquement, on serait totalement indifférents les deux, ce qui est peu connu. Fait que là, ça amène à d'autres conseils. Il faut faire attention. L'épargne, c'est toujours important, mais c'est pas toujours le REER qui est à privilégier. Si tu es en début de carrière, c'est dans une année où est-ce que tu es en deux jobs, tu n'as pas travaillé pendant 4-5 mois, tu fais ton épargne pareil, mais tu es peut-être mieux, probablement mieux de privilégier le CELI. Fait que, petite parenthèse là-dessus, j'aurai l'occasion de revenir au début de la période REER. Fait que là, on a vu les caractéristiques du CELI et du REER. Le CELIAP, c'est comme un peu un ramassé du meilleur caractéristique des deux. Puis c'est pour aider les gens qui sont considérés premier acheteur à amasser la fameuse mise de fonds. On en parlait hors d'onde, vous en avez parlé aussi tantôt là, dans un segment. C'est de plus en plus difficile. Les maisons sont plus chères, c'est de plus en plus difficile. Bon, on a peu les premiers achats, on a l'impression de courir après leur queue. Il faut
qu'ils
ramassent la mise de fonds, puis les prix augmentent constamment, puis ça prend un pourcentage de...
Même avec les SCHL, il y a des gens qui ont de la misère à se ramasser le fameux 5%.
Hein. Exact.
Parce que je veux pas, ton 5% année après année, ils t'en demandent plus.
C'est ça, c'est 5% d'une plus grosse somme, ça fait un plus gros
Disons que 5% de mon premier jumelé que j'ai acheté, 5% de ma maison, il y avait une méchante différence.
Là, c'est quand même à bien retenir aussi, parce que pour les gens qui ont un petit peu plus de moyens ou des capacités d'épargne, c'est un peu... Il y a différents pièges avec la mise de fonds. Puis il y a certains programmes qui permettent l'accès à la première propriété qui sont mathématiquement pas si intéressants que ça pour la plupart des gens. Ils servent principalement à devancer le projet.
Oui, puis il ne faut pas que tu aies été propriétaire aussi pendant 2 ans, je pense, si je ne me trompe pas, parce que je n'étais pas éligible.
Les règles du premier acheteur là, fonctionnent pour le RAP puis le CELIAP. Il y a des petites différences entre les deux, mais en gros, il ne faut pas que tu aies été propriétaire l'année du retrait ou dans le cas du CELIAP aussi de l'ouverture, ni dans les 4 années précédentes.
C'est ça.
Et là, il y a des petites différences aussi entre les deux, des petites nuances que je vais vous nommer vers la fin. Mais donc là, bon, vous pouvez être considéré premier acheteur, même si vous avez déjà eu une maison, il faut juste que ça fasse un bout de temps que vous n'avez pas été propriétaire. Le CELIAP, dans le fond, quand vous cotisez, les cotisations sont déductibles. Il n'y a pas d'imposition sur les rendements. Donc, c'est les caractéristiques qu'on aime bien du REER. Et quand on va retirer, à condition que ça soit accompagné de l'achat d'une première maison, eh bien, on n'aura pas d'impôt, donc caractéristiques qu'on aime du CELI. C'est pour ça que je dis que c'est un peu le meilleur des deux. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant de faire un survol des caractéristiques de maintenant. Autre chose spécifique au CELIAP, on a droit de mettre 8 000 $ par année. Jusqu'à concurrence de 40 000.
OK.
Fait que là, mettons quelqu'un, dans quelques années, ceux qui sont pris tôt, ils vont peut-être avoir 60 000. Tu sais, tantôt, on parlait des REER qui augmentent la valeur. Donc là, ça va peut-être être 60 000 qui va aider pour la mise de fonds si on se donne, assez de temps.
Puis si tu utilises le CELIAP, si tu payes pour le CELIAP puis tu ne l'utilises jamais, ça se traduit comment?
C'est bon 15 ans, le CELIAP.
Okay.
Et si après 15 ans, tu n'es pas devenu propriétaire, tu peux transférer ça en franchise d'impôt à ton REER sans que ça gruge de tes droits REER.
Wow!
Fait que tu sais, ton comme worst scénario, là, le pire scénario, il est quand même pas pire.
Exact.
Ouais, c'est ça. C'est pas la catastrophe. Tu perds pas d'argent, tu payes pas d'impôts tout seul, retirant, etc.
Je vais pousser un petit peu plus loin. Tu peux quand même avoir fait des erreurs si tu ne deviens pas propriétaire parce que tu es allé chercher souvent une déduction à un taux moindre, puis tu t'achètes une facture à la sortie.
Exact.
Ouais,
fait que c'est pas majeur, là, mais tu sais. Donc, c'est ça. Là, il y a une déduction là-dessus. Là, je vais vous parler un petit peu plus loin de choses qui sont mal véhiculées. Premièrement, ces droits-là, le 8 000 par année, ils commencent à s'accumuler uniquement si ton compte est ouvert. Faut ouvrir le compte.
OK.
Sinon, là, comment que tu aurais eu 18 ans il y a 2 ans? C'est pas parce que tu l'ouvres aujourd'hui que tu as 3 fois 8 000 que tu peux mettre d'un coup. Tu peux juste mettre 8 000 par année, puis ça commence quand le compteur est ouvert.
C'est à partir de 18 ans.
À partir de 18 ans, si tu es résident canadien.
Je ne pourrais pas utiliser ça pour mes enfants, exemple.
Si tes enfants ont 18 ans, ça fait partie de mes petits trucs à la fin. Intéressant pour les parents de connaître que maintenant, ça fait partie de l'univers financier. Mettons, une des choses qui est populaire, chez nos clients qui nous demandent de s'occuper de leur enfant. Mettons qu'ils ont des régimes enregistrés d'épargne études, puis qu'ils sortent le capital, puis que dans leur tête, même si le capital est à eux, ils se disaient, ben ça, c'est pour les études, ben là, on peut faire autre chose avec, on peut cotiser au CELIAP pour l'enfant, puis là, ben pas que les voyages, c'est pas formateur, mais à la place de prendre un break d'études pendant un an et d'aller en Thaïlande, ben ça va servir, par exemple, peu importe l'endroit, ben ça va servir à quelque chose de constructif qui est difficile à atteindre, une mise de fonds de première propriété. Fait que en gros, puis là, quelques points, la déduction de 8 000, elle est reportable. Donc, tu peux cotiser. Si tu n'as pas beaucoup de revenus, tu as des revenus encore qu'on considère un peu étudiants, puis tu cotises 8 000 parce que c'est intéressant pour toi, puis tu veux accumuler ces droits-là, bien, tu n'es pas obligé d'utiliser 8 000 de suite sur ta déduction fiscale. Tu la gardes, mais tu peux la déduire à un moment où tu auras un revenu plus élevé. Mettons,
parfait.
Yann, on recule dans le temps. Si le CELIAP existe, tu es stagiaire dans une radio, tu n'es pas trop... pas trop payé, t'es confiant que t'as un poste régulier après, t'es mon client, mais on fait le CELIAP parce que c'est intéressant pour toi. Mais on pourrait garder la déduction en se disant, ben écoute, l'année prochaine, je pense qu'il va y avoir un contrat, il va y avoir une meilleure rémunération, ça va être plus intéressant de le déduire l'année prochaine.
Je peux te dire que quand j'ai commencé en 2006 à 11$ de l'heure en bourse pour 3 heures pour faire un show du matin, ça me donnait 33$ pour mon show du matin, puis j'habitais à Québec, j'aurais pas eu moyen de mettre d'argent dans mon CELIAP.
Non, ouais. J'aime pas ça, moi, dire à quoi.
T'avais juste de l'argent pour le dépenser. Sans gasoline.
J'aime pas ça, moi, dire c'est quoi mon premier taux horaire, tu sais, parce que, mettons, tu parles à quelqu'un, puis mettons, tu parles à quelqu'un de plus jeune.
Quand t'as commencé à travailler. Non,
c'est ça, ben, moi, mon premier emploi étudiant, c'était.
C'était 6$?
Ben, 5, moi, c'était 6$? Pire que ça, parce que c'était un salaire à la semaine au patron. Fait que ça me donnait 3,22 $ pour m'occuper autres, de jeunes gamins dans un camp de jour.
Nous autres, c'était 5-6$, je pense. Chez Ronald McDonald, 14-15 ans,
c'était 5-6$. Oui, ça devait être ça. Ça devait être un 5-6$, parce que c'était ça. Nous autres, ils n'étaient pas, éligibles pour le salaire minimum, vu que c'est un organisme à but non
lucratif. Toi, Marc-Antoine, c'était combien?
Hein? Moi, j'ai déjà... c'était en dessous de la table, mais j'ai déjà transporté des balles de foin. Là. J'ai grandi en campagne pour 3$ de l'heure.
3$
de l'heure. C'était pas très cher. Mais tu finissais brûlé. C'est quand même lourd, des balles
de foin.
Aujourd'hui, l'agriculteur à côté de chez nous, là, il paye 20$ les jeunes pour ramasser des roches au printemps.
Ah ouais,
j'imagine.
Parce qu'il y a des roches qui sortent de la terre au printemps. Ouais. Là. Il paye 20$ puis il y a de la misère à se trouver des jeunes. 20$ de l'heure.
Les casseaux de fraises, c'était une pièce. Les gros casseaux, oui. Là, ça donnait une pièce
du
casseau. Ouais, une journée de 20$, on était contents.
On travaillait comme des chiens. On serait en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, avec une grosse maison. Là, si on avait eu 20$ pour ramasser des roches à l'époque.
En même temps, en tout cas, le CELIAP serait rempli en tabarouette.
Fait que je reviens, CELIAP, juste donner quelques trucs pour conclure, là, ou quelques observations. On a droit de rattraper 8 000 du passé seulement sur le CELIAP. Okay. Je vais vous donner un exemple concret qui arrive assez souvent dans ma clientèle. J'ai quand même plusieurs futurs médecins dans ma clientèle. Futurs médecins sont endettés, mais ils vont faire un bon revenu sous peu. Fait que la première question que je pose, c'est est-ce que, puis je pense d'en parler de cette façon-là, ça va faire une belle conclusion à la chronique. Est-ce que tu as des chances d'acheter dans les 5 prochaines années? Si la réponse est oui, on ouvre le CELIAP. Tu comprends? Parce qu'on a besoin de 5 ans pour se rendre au potentiel maximum.
40 000. Ouais.
Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand on parle d'un jeune, la plupart du temps, il y a des droits CELI, puis le CELI n'est pas encore plein. Fait que deuxième affaire, j'ouvre le CELIAP et je me commets le plus tard possible à cotiser dedans. Parce que souvent, je n'ai pas besoin de la déduction fiscale tout de suite, je vais la garder pour plus tard. Comme le médecin qui soit résident ou aux études, je garde la déduction pour quand il va faire son salaire de médecin. Fait que je mets son 8 000 dans le CELI. Okay. L'année prochaine, au 31 décembre, au mois de décembre l'année prochaine, ben là, je vais mettre le premier 8 000. Pour toujours être 8 000 en retard, j'ai le droit de rattraper 8 000 du passé. Je ne me suis pas commis, puis le client garde l'argent pour d'autres objectifs que sa maison, mais en même temps, je ne fais perdre aucune opportunité. Toujours 8 000 en retard, puis la dernière année, quand tu vas acheter à la maison, 16 000.
Pouf.
Les parents, ceux qui sont plus... avancés qui nous écoutent, qui se reconnaissent dans l'histoire des balles de foin à 3$. Non, mais face à part où les kéas, je ferais. Pour les parents qui ont de l'argent dans les REE, puis tout ça, c'est une belle façon de faire. Des fois, les jeunes, aujourd'hui, ils commencent à travailler plus tôt, puis ils font des bons revenus. Ça peut arriver que les retraits qui sont au nom de l'enfant du régime enregistré d'épargne études, qu'il y a de l'impôt dessus, ça fait que c'est une belle façon de dire, ben écoute, on va arranger ça, on va prendre un petit peu de CELIAP puis tout ça. Ça fait que le parent, s'il s'implique, c'est une belle chose qu'il soit sûr que son fils profite des opportunités du CELIAP. Puis dernier point, c'est arrivé récemment dans ma clientèle. Faites attention, si vous êtes conjoint ou conjointe, vous êtes sur le point de déménager avec un propriétaire. Bien, pour le CELIAP, c'est légèrement différent du RAP. Le fait de déménager ne contaminera pas la possibilité de cotiser si vous n'êtes pas propriétaire. Mettons, tu rencontres une blonde, je ne sais pas si c'est une blonde, mettons, tu rencontres une fille, elle va rester avec toi, puis t'es propriétaire, Yannick. Elle n'a jamais été propriétaire. Si elle ouvre son CELIAP avant de devenir ta conjointe fille, elle était considérée première acheteur quand elle a ouvert son CELIAP, puis elle va avoir le droit de cotiser quand même pendant qu'elle reste avec toi. Si elle ne l'a pas fait,
je comprends.
Elle est à ton adresse, là, elle ne pourra plus l'ouvrir. Tu sais, c'est des petites nuances comme ça, puis des petites différences aussi avec le programmeur, parce que c'est important d'être bien guidé, puis d'être sensibilisé aussi aux particularités du CELIAP, puis d'y penser à l'avance tout le temps.
Là, c'est franchement intéressant. Pour les gens qui veulent communiquer avec toi et ton équipe, Marc-Antoine Reid, planificateur financier pour IG Gestion de patrimoine, on te rejoint comment?
On est facile à rejoindre, numéro sans frais qui illustre bien le travail qu'on fait avec chacun de nos clients, 1-833-TON-PLAN, ça veut dire qu'on fait des plans financiers pour aider nos clients à atteindre des objectifs. Sinon, vous pouvez nous googler équipe Marc-Antoine Reid, R.E.D., vous allez tomber entre autres sur notre site internet où vous pouvez prendre contact. Et finalement, si vous voulez ressaisir toutes les nuances de ce qu'on a discuté en dehors du cueillage de fraises puis des bottes de foin,
c'est blvd.fr.
Exact.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bye bye. Salut Marc-Antoine.
On fait une courte pause, 9h23. Boulevard 102.1. Marceau.